Le retour de boulevard, on est installé jusqu'à 18h. Salutations à ceux et celles qui viennent potentiellement de se joindre à nous. Vous allez voir, on a du fun, on est attachants, je pense. On est ensemble pour le reste de l'été jusqu'au retour de la programmation. Dans le retour, ça va se faire le 3 août. Programmation complète le 10 août prochain.
Là, je me sens mal, là, parce que j'ai choisi au hasard la gagnante.
Oh,
là,
Seigneur, que t'es gênant.
Non, mais c'est parce que j'ai fait une blague, mais après, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il fallait être là dans les derniers jours pour avoir. Puis là, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de maudit bon sens ce que j'ai écrit.
Probablement rien. Ben, salut, Catherine.
J'ai félicité, tu sais, Catherine qui gagne. Mais Max fait dire qu'il veut pas se faire déranger par ton bébé, parce qu'elle nous mentionnait que bébé 3 venait d'arriver. Fait que j'ai dit, amène-le pas. Tu m'as dit, Max, parce que ça n'a pas de bon sens. On comprend pas que c'est une joke, ton affaire.
Ben, tu sais, je vous lis l'échange. Avec mon mari et un couple d'amis, après l'avenue de bébé 3, un petit 5 à 7, ça ferait vraiment trop de temps, ça ferait du bien. On salue Catherine. Max de répondre, tu gagnes. Mais Max fait dire qu'il veut pas se faire déranger par ton bébé, donc ne pas l'amener. Là, il donne le code et réclamation prix.
Il n'y a pas d'émoji, il n'y a pas de ha-ha. Peut-être qu'elle n'a pas le contexte. Parce que peut-être qu'elle n'a pas entendu nos blagues.
Bon, je suis rassuré, Catherine vient d'envoyer des bonhommes qui rient. Fait
d'après
que...
moi, c'est une auditrice quand même à l'écoute. T'es vraiment chanceux.
Fait que non, je vais faire attention la prochaine fois, promis. Vous pouvez amener vos bébés, sauf hier au show de Patrick Watson. Il y avait des bébés qui pleuraient à côté de moi. Là. Ça, c'est le karma qui m'a envoyé des bébés pleurer dans les oreilles. Hein.
Je pense que oui. Je pense que les parents probablement se disaient que c'était le show idéal pour venir avec bébé.
Ben, au contraire, attends.
C'est le show plus relax.
On partira pas un débat là-dessus, mais show de Limp Bizkit, un bébé braille, personne l'entend.
Voyons, Max, t'es sérieux, là?
T'amènes pas un bébé au show de Limp Bizkit.
Prends pas ta tête à papillon pour...
C'est trop fort.
Non, c'est le pire show hier pour amener un bébé.
Je comprends ce que tu veux dire en frais de silence versus bruit.
Ben oui, c'est parce que tu l'entends à des milles à la ronde.
Non, mais c'est
là.
Parce que la principale grille d'analyse des gens, c'est pas ça va-tu déranger Max, tu comprends?
C'est comme, non, c'est pas
c'est
Max,
plus
c'est le
bien-être
le
du bébé.
C'est ça. Puis le bien-être du bébé, c'est préférable dans une ambiance où c'est tranquille qu'à un show de Limp Bizkit, tu comprends?
Ben, mais c'est des coquilles, je sais pas. Mais est-ce que c'est pas ça qu'on allait le faire?
Ouais. Je comprends que tu veux pas repartir là-dessus. Je pense que c'est mieux pour ta réputation aussi, pour ceux qui viennent de se joindre à nous à Boulevard. 16h05. Ben, je vais te faire encore un tour de circulation. Il y a quand même beaucoup de stock, là. C'est difficile dans les derniers jours. Vous rappelez l'incident sur la 20 Ouest, hauteur Taniata. La sortie 318 de l'avenue Taniata est complètement fermée. Service d'urgence sur place. Il n'y a pas de mise à jour non plus pour le bris d'aqueduc. Max, t'as pas vu?
Pas encore, non.
Donc, bris d'aqueduc à la hauteur de l'hôpital Saint-Sacrement, portion du chemin Sainte-Foy qui est fermée à la circulation entre l'avenue du Cardinal Bégin et l'avenue du Cardinal Rouleau. Donc, peut-être éviter le secteur si vous pouvez. Mais à part ça, ben, je regarde la carte en ce moment. Route de Fossambeau entre des Érables et de la Jean-Cartier, c'est les ralentissements habituels. Si vous êtes devant la base militaire, route de la Bravo dans les deux directions, ça bouge pas. Capitale-Est, hauteur Robert Bourassa, ouest entre Bourg-Royal et Laurentienne. Laurentienne-Sud, on le voit nous autres d'ici de la fenêtre, il y a un ralentissement quand vous venez chercher la bretelle pour la Capitale-Ouest. Robert Bourassa, direction nord entre Charest et la capitale, c'est au rouge. Charest, direction est entre Duplessis et Henri IV, difficile, aussi à la hauteur de Robert Bourassa. Henri IV sud, ça se passe entre Charest et les ponts. Duplessis sud, chemin Sainte-Foy et les ponts. 73 nord, vous allez chercher justement le pont La Porte, mettons. Là. Ça a ralenti à partir un peu après avenue de la Rotonde, pour vous donner une idée, jusqu'à l'entrée du pont. Il y a encore cet incident-là. Sur Guillaume Couture, direction ouest, entre Ernest-Lacasse puis Chemin du Sceau. La 20, direction ouest, ça se passe entre Monseigneur Bourget et Chemin des Îles de façon plus intense. Direction est, c'est entre du Sceau et Taniata. Guillaume Couture, ça va se passer entre Chemin des Îles et Taniata. Un problème aussi entre Monseigneur Bourget et la route du président Kennedy, dû aux travaux. Ça, c'est comme le grand tour des grands artères, évidemment. S'il y a autre chose, vous vous gênez pas au 971-1021. Vous rappelez qu'on est à 25 présentement. M'a fait un petit refresh. Oui, 26, ressenti 28. Ce soir et cette nuit, 16 degrés annonce, 40% de possibilité d'averse, mais Nostradamax nous dit que ça se passera pas. Quoique là, les nuages...
Non,
0-0?
Zéro pluie à soir.
OK, parce que sur le Bourgneuf, on a un petit nuage un peu gris foncé, là.
Ouais, moi, ça me... Non, je vous dis, puis à la date, je suis pas mal au top dans mes prédictions. Là, je suis au sommet de ma forme, moi, il n'y aura pas à soir.
Parfait. Bien, je nous le souhaite. Demain, 21, 40% de possibilité d'averse, un peu plus frais en soirée à 14. Vendredi, 25, gros soleil et 12 en soirée. Là, voyez-vous, ça a changé pour les prochains jours. Samedi, ce serait de la pluie intermittente, un 70% de possibilité en soirée aussi. Il y a du monde qui va avoir du fun à Martin Garrix.
ça va être... la plus grosse soirée du FEC, surtout là avec la météo. Là,
t'as changé de discours, là. Au début, c'était ce soir.
Attends, non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit dépendamment de la météo pour samedi. Là, si tu me dis que samedi, il risque de faire beau.
Non, il pleut.
Ah, oh, il pleut. Ça...
Oh,
okay,
il pleut intermittent, okay. 70%.
OK, c'est vendredi puis dimanche qui fait soleil.
Exact, mais sais-tu quoi?
Okay.
Je pense que malgré ça, faut remettre en contexte, le Martin Garrix, un solide DJ.
Pour moi, c'est le meilleur.
Absolument, qu'on n'a pas eu la chance. Il est jamais venu au FEC, je suis pas folle.
Moi, de mémoire, non.
Je pense pas non plus, du moins pas dans les 8 dernières années, ça, je vous le jure. Et c'est un DJ qui rejoint plusieurs générations. La soirée électro, oui. Elle est toujours prisée par les plus jeunes. J'ai pas l'impression que la pluie va arrêter grand monde cette soirée-là. Surtout que ça danse, il fait chaud. Non, non, d'après moi, on est correct malgré tout.
Mais d'abord, ça veut dire que vendredi, gros soleil, je pense que Muse pourrait être la journée la plus achalandée du fait.
Ah, mais Muse, est le du moins, moi, je suis sur les différents groupes de revente, là, pour peu importe les passes, là, et c'est le show le plus demandé.
Ouais. Ben là, avec le gros soleil, je pense que je mettrais mon petit 2 sur vendredi.
J'ai l'impression que ça va être une solide soirée. Dans l'actualité, Max, est-ce que ça a beaucoup bougé? Là, je sais que tantôt, on s'est parlé, ben, je dis une tragédie potentielle, on n'a pas de détails. J'ai le réflexe de dire tragédie parce que je trouve ça épouvantable que ça se passe en garderie puis personne s'en soit rendu compte puis personne n'ait appelé les services d'urgence. Là. Mais peut-être nous rappeler les fins détails de cette histoire-là.
Ouais, puis en fait, ce qui est dommage, c'est que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de détails. C'est le journal, en fait, qui nous rapporte ce qu'on a, le SPVQ qui enquête sur cet événement troublant qui serait survenu dans une garderie de Beauport vendredi passé. Ce que le journal nous dit, c'est qu'un enfant de 2 ans qui aurait chuté du 2e étage de la garderie Le Monde des Frimousses. Puis les services d'urgence n'auraient pas été demandés sur place. Peu d'informations donc disponibles. On raconte que le petit aurait échappé à la surveillance du personnel puis serait tombé d'une fenêtre endommagée qui avait été endommagée quelques jours avant l'incident. Toujours selon le journal, le bambin serait resté sans assistance pendant environ une demi-heure après sa chute et le personnel n'aurait pas appelé l'ambulance. On aurait aussi attendu plusieurs minutes avant d'appeler les parents. On n'a pas idée de l'état du bambin, le journal qui n'a pas été en mesure de parler aux parents. Le SPVQ qui ne fait que confirmer qu'il enquête là-dessus depuis lundi. Fait qu'évidemment qu'on devrait avoir plus de détails, mais il faudra attendre un petit peu. Même chose en fait pour la deuxième nouvelle dont je vous parle, une entreprise de Beauport qui a été ciblée aujourd'hui par la police de Montréal, assistée du SPVQ dans une opération liée au trafic de stupéfiants. Puis encore là, on ne sait pas grand-chose. Les autorités nous disent, on va vous donner un bilan quand on aura fini l'opération. Mais c'est sur les réseaux sociaux, entre autres, qu'il y a des images qui ont circulé où on voit des individus qui semblent être menottés. Fait que ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait une opération importante chez Metal Beauport Inc. Bilan à venir. Si on est chanceux, on aura ça d'ici 18 heures. Un jeune de 16 ans impliqué dans les événements qui avaient mené à la mort d'un ado de 14 ans à Frampton en Beauce en 2024 a reconnu sa culpabilité ce matin. Le journal rapporte qu'il a plaidé coupable à 2 accusations d'incendie criminel et d'avoir comploté pour commettre un acte criminel, donc incendie criminel dans le cas ici. À noter que la juge a prononcé une importante ordonnance de non-publication à la demande de la poursuite qui empêche de rendre public la trame factuelle car un accusé d'âge adulte attend son procès, donc on veut pas donner toutes les infos. Rappelons qu'un adolescent de 14 ans, Mohamed Yanis Segwani, avait été retrouvé sans vie près du repère d'un club-école des Hells à Frampton. 4 arrestations qui ont été réalisées jusqu'ici dans cette affaire-là. Julien Leguédor, un individu de 22 ans associé au Blood Family Mafia, a de nouveau été arrêté ce matin par la police de Lévis. Cette fois, il fera face à la justice pour des accusations d'agression sexuelle, de voies de fait, de harcèlement criminel, d'obtention de services sexuels moyennant rétribution et de cruauté animale pour des événements qui seraient survenus entre janvier 2023 et mai 2026. Leguédor qui doit comparaître cet après-midi du côté de Québec. Pierre Gagné-Boily, condamné en 2020 à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 12 ans pour avoir tué sa femme en 2017 à Lévis, devra encore attendre avant de retrouver sa liberté. L'homme qui contestait en février dernier la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui ne lui accordait pas de permission de sortie. Mais voilà que la section d'appel a confirmé dans les derniers jours la décision de la Commission. Rachel Renault, la sœur de Gabi Renault, se présentera pour la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Bellefeuille. On a beaucoup vu Rachel Renault après le décès de sa sœur Gabi dans un contexte de violence conjugale. Son combat qui a d'ailleurs mené à l'adoption de la loi qui permettra à une femme qui craint pour sa sécurité d'obtenir des renseignements sur les antécédents en matière de violence conjugale d'un partenaire. Et je termine avec ça, la CAQ qui change en quelque sorte de nom et d'image. La semaine passée, le nouveau nom Équipe Christine Fréchette Coalition Avenir Québec a officiellement été approuvé par le DGEQ, mais le parti qui va plus loin que ça, sur le site web de la CAQ, un logo en haut de page ne fait même pas mention de la CAQ ou de la Coalition Avenir Québec. On peut lire seulement Équipe Christine Fréchette. Samedi, en annonçant qu'elle serait à nouveau candidate, la ministre Karianne Bourassa parlait de l'équipe de Christine Fréchette et non de la CAQ, la direction du parti qui confirme que le désir, ben, c'est vraiment de mettre à l'avant la nouvelle chef.
Merci Max. Juste te dire qu'il y en a qui te contredisent, là, plus à Lac-Saint-Charles, plus à Saint-Émile, plus à Lac-Beauport.
Moi, je vous dis qu'il ne mouillera pas à soir. Moi, c'est ça mon point.
Ça va s'être arrêté. Okay? Parce que je vois le Bourgneuf se couvrir pas pire aussi, là, en espérant que ce soit juste un petit nuage passager. C'est 40 %. Tu parlais de la CAQ et Christine Fréchette. C'est le temps d'en jaser. Bon, j'avais hâte qu'on en parle. Parlons-en. 88-971-1021. Équipe Christine Fréchette. Y a-tu vraiment quelqu'un qui arrête de respirer aujourd'hui, mettons? Y a-tu vraiment quelqu'un là, qui a envie de déchirer sa chemise là-dessus?
Mais parce je pense que... pas que c'est déchirer sa chemise. C'est juste.
On en parle
trop. Mais y a personne qui est fâché.
Ben, en fait, excuse-moi. Les adversaires politiques sur les médias sociaux, dans les médias depuis le changement de nom, ils s'en donnent un peu à cœur joie pour dire que c'est un culte de la personnalité ou qu'on essaie de faire oublier le bilan de la CAQ alors que les gens sont pas caves.
Mais ça, c'est factuel.
Ben, c'est la CAQ. Oui, c'est ça. Mais le déchirage de chemise, j'ai envie de dire, un peu obligatoire des partis adversaires.
C'est-tu obligatoire, oui?
Ben, moi, je trouve pas, là, mais c'est...
Je trouve que c'est tellement
du niaisage. Tu fais flèche de tout bois là, quand tu fais de la politique. Donc là, ils vont en profiter pour rappeler. Parce que pourquoi c'est intéressant d'attaquer la CAQ là-dessus, Christine Fréchette là-dessus? C'est parce que Christine Fréchette, elle essaie de montrer que c'est une nouvelle CAQ. C'est pas pareil. Comme la pub là, du PQ avec le sandwich. Là. C'est un autre sandwich qu'on a fait. Okay? Alors que les partis adversaires, eux, ils veulent rappeler constamment le bilan de la CAQ.
Quand même bonne en passant. Là.
Oui, elle était très bien
honnêtement,
faite.
Honnêtement, il faut leur donner.
Un peu dégueulasse le son, par exemple, mais bon. Donc, oui, ça, je pense que pour les partis adversaires, c'est intéressant parce que ça permet encore une fois de dire, ils essaient de vous faire croire que c'est autre chose que ce que c'est. Mais c'est la CAQ. Rappelez-vous. Ils vous gossent, vous les haïssez, tu comprends?
Ouais.
Donc, c'est ça un peu la guerre de narratif en ce moment. C'est Christine Fréchette, nouvelle approche, vous l'aimez, puis en politique, on aime
pas
ça
faire
la nouveauté.
Autrement.
Ben, c'est ça. Donc, l'équipe Christine Fréchette, Coalition Avenir Québec, c'est le nouveau nom du parti. C'est très symbolique, là. Ça change pas la vie. Rappelons-le, la CAQ avant, c'était équipe François Legault. Sauf que François Legault, c'était le fondateur. Christine Fréchette, elle n'est pas fondatrice de la CAQ, donc elle aurait pu faire le choix de dépersonnaliser la formation politique. Mais elle ne veut pas parce qu'ils sont devant un choix stratégique. Moi, tu sais, j'étais surprise de voir les citations de Brigitte Legault, qui est la directrice générale du parti, dans les articles ce matin, qui disait « oui, parce qu'on veut vraiment montrer que c'est une nouvelle CAQ ». Moi, je pensais qu'elle allait dire, ben voyons donc, c'est business as usual. C'était la CAQ de François Legault, c'est la CAQ de Christine Fréchette. Lâchez-moi avec ça, c'est une non-histoire. Mais non, ils veulent en parler. Ils veulent montrer que c'est une nouvelle CAQ.
Qu'il y a un vent de changement.
Bon, c'est ça. Donc, non, personne ne déchire sa chemise comme telle. On va vouloir mettre plus Christine Fréchette de l'avant pendant la campagne. Moi, je pense qu'on va voir des photos d'elle sur les pancartes. T'as déjà dit, Max, tantôt, que le logo a été changé sur le site de la CAQ, puis on voit pas CAQ, on voit équipe Christine Fréchette. Mais Christine Fréchette n'est pas plus populaire que son parti. Dans les faits, les intentions de vote de la CAQ sont plus élevées que qui voit Christine Fréchette comme la meilleure première ministre. Là. Elle est à 18 % dans le dernier léger, alors que les intentions de vote sont autour de 22-23 %.
Ce qu'on garde souvent pour dire, est-ce que le chef tire son parti vers le haut ou c'est le parti qui tire son chef vers le haut?
C'est ça. Donc, la CAQ est à 23 % chez les francophones. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 31 % des gens qui sont encore incertains. Qui est le meilleur chef? Qui serait le meilleur prochain premier ministre? Et je pense que le pari qu'elle fait, c'est de dire, je suis capable d'aller chercher dans ce 31 %-là. Là, les gens me regardent et se disent, ah, c'est la CAQ, je ne suis pas certain, je vais attendre de voir. Donc, elle, le pari qu'elle fait, c'est qu'elle a plus de chances d'y arriver et d'aller chercher des intentions de vote en se mettant elle-même de l'avant. Puis, tu sais, quand on regarde les intentions de vote, des fois, c'est intéressant de regarder par groupe d'âge. Je regardais quand même la CAQ qui est à égalité avec le PQ puis le Parti libéral dans les 55 ans et plus. Donc, vous allez
ceux
voir...
qui vont voter.
Ceux qui vont voter. Donc, vous allez voir la campagne électorale. La CAQ risque... Tu sais, il y a toujours des petites figures imposées pour aller chercher le vote des jeunes, mais tu vas voir que les propositions vont viser ces gens-là, les francophones, de 55 ans et plus. La CAQ est à, vraiment à égalité. Tu sais, quand on dit qu'il y a une course à trois, quand on regarde les intentions de vote, on peut se dire, ben non, mais il faut vraiment regarder les francophones puis l'électorat qui est plus précieux pour chaque parti politique. Puis c'est ça qui fait la différence. Donc, ça va être intéressant quand même de suivre la stratégie de communication de la CAQ pendant l'été. Mais il y a une affaire qui me frappe beaucoup, c'est à quel point on continue de faire des annonces comme gouvernement. Donc, on n'est pas dans la CAQ annonce « Voici notre proposition, votez pour nous et nous le ferons ». C'est
Québec,
le gouvernement
du Québec.
Elle en profite vraiment jusqu'à la dernière goutte, alors que les autres partis politiques sont plutôt absents présentement.
Mais ce qu'elle fait bien, tu sais, quand tu regardes, mettons, au niveau stratégie, là, vraiment stratégie politique au niveau de l'image, là, j'ai l'impression qu'il y a tellement de monde qui haïssait la CAQ pour mourir.
Peut-être que de donner un break, des fois, tu sais, ça permet aux gens de s'ennuyer un petit peu. Puis les gens sont un peu moins à l'écoute pendant l'été. En même temps...
Ça donne l'impression qu'elle chôme pas.
Elle donne une image travaillante. Elle a promis des choses pendant sa course à la chefferie. Elle veut les réaliser.
Mais pour moi, ça devrait être illégal, ce qui est fait en ce moment, là, de faire 3-4 annonces par jour qui coûtent de l'argent pendant que l'Assemblée nationale ne travaille même pas en ce moment.
Pourquoi?
Sans contrepoids.
Ben,
ouais.
Parce que c'est comme Antonine disait... Ils font passer leurs annonces comme le gouvernement du Québec, alors que clairement, c'est la CAQ en campagne électorale.
Oui, c'est caché un peu.
En utilisant notre argent, puis c'est tellement injuste pour les autres partis.
Au niveau de la légitimité, c'est ordinaire. Par contre, évidemment, tous les partis l'ont fait. Là.
Ben oui, oui,
absolument. Libéraux en 2018,
j'ai le sentiment que les gens ne voient pas ça. J'ai l'impression que les gens voient... OK, elle a fait quelque chose.
Ben, c'est pour ça qu'ils font bien de le faire.
Absolument.
Ça fonctionne jusqu'à un certain point, mais je pense qu'il ne faut pas exagérer. Là, les vacances de la construction vont bientôt commencer. Honnêtement, ça va être le temps d'arrêter. Parce qu'il y a des dépenses qui sont engagées au mois d'août, avant la campagne électorale. Là, à un moment donné, il peut y avoir un effet boomerang.
Ben, ça, c'est des nouvelles dépenses. Ce n'est pas des choses qui étaient dans le budget.
Ça dépend. Il y en a qui étaient budgétés.
Mais qu'on réannonce, genre,
ouais,
pour être dans les médias.
Oui. Puis ça, en passant, c'est un truc vieux comme le monde, là, annoncer 10 fois les mêmes affaires. Ouais. Puis aussi, tu sais, ils ont annoncé une coupure de taxes TVQ sur certains produits. Bien, ça entre en vigueur aujourd'hui.
Fait que là, on en reparle aujourd'hui.
Un autre cycle de nouvelles.
Qui, en passant, pour quelqu'un seul à la maison, mettons, moi, là, cette mesure-là, là, ouais, une personne seule à la maison, c'est 12$ par année que ça nous sauve. Là.
Ben,
juste
tantôt,
remettre
là,
les choses en perspective.
Audrey, tu mangeais des petits ananas coupés. Ouais. Ils étaient détaxés aujourd'hui, tes petits ananas
vrai
coupés.
C'est ça, tu as acheté aujourd'hui ou hier?
Je les ai achetés aujourd'hui.
Hein? Ben, tu vois, tu as sauvé une coupe de scène.
Je pense que ça vise plus les familles puis les.
Ben, même là, 50$ par année.
Mais ben, écoute,
non,
à peu près tous les économistes étaient d'accord pour dire que c'était une mesure qui était non structurante.
C'est plus du...
C'est une pièce par semaine.
C'est bien vu, fait que...
T'as l'air d'essayer de faire de quoi pour le coût de la vie puis le portefeuille des gens. Parlant de vacances de la construction puis du mois d'août, je me pose des questions sur certains députés de la CAQ actuelle. On a vu le départ de François Bonnardel dans les derniers jours. On trouvait que c'était tard. Là, il y a vraiment des rumeurs persistantes sur Martine Biron, députée de Chute-la-Chaudière sur la Rive-Sud. Il y a Nathalie Roy aussi, qui est la présidente de l'Assemblée nationale. Mais je trouve que c'est deux cas un peu différents parce que...
Les deux penseraient quitter?
Oui, la rumeur est assez persistante. Nathalie Roy est élue depuis 2012. Moi, je trouve qu'elle a donné.
Ah, puis surtout comme présidente, là, souvent pour regarder les périodes de questions, je serais brûlée.
Oui, c'est sûr que nous, on voit beaucoup son travail, peut-être plus que celui d'autres députés qui se fait davantage en coulisses. Mais, tu sais, je veux dire, ça fait 14 ans. Elle s'est présentée dans un moment où c'était pas certain que la CAQ allait gagner. Alors que Martine Biron, ben, elle s'est présentée en 2022. 2022, là, c'était sûr que la CAQ allait être élue. Chute-la-Chaudière, c'était sûr que la CAQ allait gagner.
Puis ils ont encore, je check actuellement les projections de Québec 125. Les conservateurs sont favoris, le PQ est pas loin, mais la CAQ n'est pas si loin non plus. Fait que Martine Biron aurait des chances. Dans le cas de Nathalie Roy, en ce moment, la CAQ mène dans Montarville.
Montarville est encore caquiste selon les projections. Mais c'est sûr, c'est très imprévisible. Tu sais, quand on regarde Chute-la-Chaudière, Parti conservateur, Parti québécois puis CAQ sont tellement proches les uns des autres. Honnêtement, un événement peut faire en sorte quelqu'un se faufile. Cela dit, qu'elle décide de rester ou pas, c'est vraiment sa décision. C'est juste que il y a eu plusieurs deadlines. Oui, c'est ça. C'est que, premièrement, elle a appuyé Christine Fréchette. dans la course à la chefferie. Et quand Christine Fréchette a fait son conseil des ministres, elle a demandé à tout le monde, tu te représentes ou pas? Je vais prioriser les gens qui se représentent, évidemment. Donc, les gens qui ont été nommés au conseil des ministres, normalement, c'est des gens qui avaient dit « je vais me représenter ». Ensuite, la DG du parti, Brigitte Legault, a dit « on se donne jusqu'à la fin de la session à peu près » pour que les gens nous aient dit oui ou non, on se présente, parce que moi, on va commencer à annoncer des candidatures. J'ai besoin de savoir qui se représente ou non. Encore une fois, le délai a été dépassé. Là, on avance dans l'été, puis là, on se dit peut-être, ah, oh, mais on va annoncer ça, là, sous le radar, pendant les vacances de la construction. Premièrement, les trucs, on les connaît tous, OK? Les communiqués le vendredi après-midi, on les regarde.
Ça passe dans le
bar. Ça passera pas dans le bar.
Les gens pensent que ça passe dans le bar.
Deuxièmement, il se passe rien d'autre. Donc, le départ de François Bonnardel, on en a parlé pendant 3 jours.
Oui.
Fait que si tu m'envoies une autre députée, une autre ministre qui quitte la CAQ...
On va en reparler pendant 3 jours.
Ben oui. Fait que peut-être qu'il y a un petit peu moins de monde qui écoute, mais en fait, on ratisse large parce qu'on en parle longtemps. Les cycles de nouvelles sont très, très longs. Donc, en tout cas, bref, ils ne rendent pas bien service à leur chef.
As-tu l'impression qu'il y en a qui ont annoncé qu'ils ne reviendront pas, qu'ils pourraient revenir? Je sais qu'avec Jeff, on a souvent parlé de Sonia Lebel, qui, en ce moment, je suis en train de regarder les projections, c'est égalité avec le PQ pour la CAQ dans Champlain. Puis Sonia Lebel, on dirait que c'est vrai qu'on a le feeling des fois que ça y tente comme de rester, mais elle a annoncé qu'elle partait.
Sonia Lebel se rattrape autrement en ce moment. Elle a dit qu'elle quittait, puis je pense qu'elle va garder cette décision-là, quoique ce serait vraiment une bonne nouvelle pour Christine Fréchette. Là. Sonia Lebel, c'est un atout non négligeable. Mais elle travaille très fort sur le recrutement. Puis elle a réussi à aller convaincre des gens de se présenter. Puis elle aurait notamment convaincu des femmes. C'est difficile de convaincre des femmes à aller en politique en passant. Ça demande de la job.
C'est-tu à cause de la famille?
C'est beaucoup de choses différentes. Je pense qu'à la base, les femmes se sentent moins à l'aise de débattre politiquement parce que pour toutes sortes de raisons patriarcales. Deuxièmement, effectivement, la conciliation famille-travail, ça fait peur à beaucoup. Les insultes sur les médias sociaux. Il y a beaucoup, beaucoup de raisons qui sont mises de l'avant. Puis souvent, ça prend vraiment plusieurs cafés. Là. Les partis me disent en joke souvent, les gars appellent, là, ils sont comme « Salut, j'aimerais ça me présenter, je suis vraiment bon, j'aimerais ça être ministre des Finances, s'il vous plaît. » Alors que les filles sont comme « Ah, je ne suis pas bonne, je connais pas assez la politique. C'est un petit peu plus compliqué. Donc, on me dit que Sonia Lebel continuerait de travailler activement, au moins pour aller chercher de la relève pour la CAQ.
Gabi Renault, sa sœur qui se présente pour la CAQ, on l'a pas vu venir vraiment.
Moi, je ne suis pas tombée en bas de ma chaise.
Moi, oui.
Ouais, toi,
j'ai vu ça un matin et j'ai fait « Ah ouais, déjà! » Tu sais, on dirait qu'on l'a tellement vu dans les dernières semaines comme...
Peut-être rappeler le contexte.
C'est parce que c'est le dossier des féminicides qu'on associe tellement à Québec solidaire.
Oui, c'est ça. Puis Gabi Renault, donc, il y a quelques années, qui a été tuée. Féminicide. Et là, sa sœur qui se battait dans les dernières semaines, les derniers mois, pour arriver avec un fameux projet de loi qui pourrait aider des femmes à, d'une façon ou d'une autre, s'en sortir. Puis là,
Vérifier. En fait, c'est que maintenant, on peut vérifier les antécédents d'une fréquentation ou d'un conjoint, ce qui permet des fois de dire « OK, drapeau rouge ».
Ce qui est différent de regarder le plumitif, mettons.
C'est ça. Puis moi, j'associais tellement ce dossier-là plus à Québec solidaire. Puis dans ma tête, la CAQ était juste arrivée, puis je veux pas dire que ça a été opportuniste ou quoi que ce soit, là, mais dans le timing, on a adopté ça en fin de session, puis on aurait pu le faire avant, mais on l'a fait à la fin quand Christine Fréchette est arrivée, justement. Puis
Mais en même temps, si t'es quelqu'un qui aspire, je dis ça, là, on jase, là. Mais ça définit pas un TSD politique, là, mais si t'es quelqu'un qui aspire à apporter un certain changement, puis tout d'un coup, tu as envie de t'impliquer, puis, tu sais, moi, ça ne m'épaterait pas que la jasette avec Christine Fréchette a été juste vraiment belle, puis qu'elle se soit dit, regarde, c'est là que je m'en vais.
Puis c'est ça aussi qu'on sentait dans cette annonce-là, c'est qu'elle a eu ça a cliqué avec Christine Fréchette. Deuxièmement, elle n'est peut-être pas de gauche, là, cette fille-là.
Non, exact.
Aussi. Mais, tu sais, c'est sûr que si j'étais Ruba Gazal aujourd'hui, je serais quand même un petit peu fru.
Parce c'est clair.
Vrai que QS a tellement porté
peut-être
le dossier.
QS Laval de travers, c'est certain. Puis, je suis allé voir pour le plaisir dans la circonscription de Bellefeuille, QS est dernier.
Ben non, c'est ça. Dans Laurentide, on oublie ça. Là.
Le PQ, c'est en ligne vers une victoire, je ne veux pas dire facile, mais le PQ a quand même une bonne avance au moment où on se parle devant la CAQ qui est deuxième.
Disons que c'est bleu. C'est très bleu comme région. Hey, je voulais vous parler de politique fédérale. On en a moins parlé dans les derniers jours. Mais il y a des élections partielles qui planent dans les airs. Donc, dans Rosemont, après le départ quand même médiatisé d'Alexandre Boulris, là, qui était député du NPD, ben, en fait, culé comme un petit peu toujours, parce que ces députés-là aiment bien garder leur salaire jusqu'à la toute dernière minute, minute, qui va se présenter pour Québec solidaire. Dans Saint-Hyacinthe, il y a le député bloquiste Simon-Pierre Savard-Tremblay qui a annoncé qu'il allait être candidat péquiste, à peu près dans la même circonscription. Puis Mark Carney m'a une fois de plus surpris par ses tactiques, pas de bas étage, mais disons un petit peu cheapo.
Richard!
En allant nommer un député conservateur, Richard, comme tu dis, Martel, au Sénat, donc député de Chicoutimi-Lefier. Donc, on a trois élections partielles au Québec qui vont être déclenchées éventuellement. Je me demande s'il ne va pas le déclencher en plein été, notre petit Mark.
Mais moi, ce que je trouve spécial, c'est le timing dans tout ça. Ce serait-tu positif de le déclencher cet été plutôt que cet automne?
Démocratiquement, c'est pas super de déclencher des élections partielles en plein été. Souvent, d'abord, les élections partielles, les taux de participation sont pas géniaux. Mm. Mais là, si en plus, les gens sont à moitié partis en vacances sur le bord de la piscine, ils n'écoutent pas les nouvelles, ils n'écoutent pas les débats.
On peut rien à faire,
hein? C'est ordinaire. Mais l'année passée, vous vous rappelez, il y a eu une élection partielle provinciale dans la circonscription d'Arthabasca. Je ne sais pas si la CAQ trouvait que c'était une bonne stratégie, mais finalement... Ils
ça, ça va attirer l'attention à cause d'Éric Duhaime.
Ça va attirer l'attention à cause d'Éric Duhaime, mais ça risque quand même d'attirer l'attention, ces élections partielles-là, parce qu'on se rappelle que Mark Carney a une courte majorité, il a réussi à coup de transfuge là, à aller chercher sa majorité, plus des élections partielles qui ont eu lieu quelques mois.
Même Richard Martel d'enlever un autre député conservateur.
Quand même, hein? Quel fripon!
As-tu des échos savoir si les conservateurs t'en sacraments après Martel? Moi, je me mets à la place des conservateurs. Je suis pas de bonne humeur après
moi,
mon chum.
Ce que j'ai entendu, c'est que premièrement, on dirait déjà que dans la dernière campagne électorale, ça ne tentait plus. J'ai entendu des choses pas très gentilles sur Richard Martel, mais on m'a dit que les citoyens vont pas sentir beaucoup son absence. Dans le sens qu'il travaillait pas tant depuis
ça te tente plus?
Et pourtant, j'ai l'impression que les gens votaient pour Martel avant de voter conservateur et qu'ils passeront pas, là.
Non, puis d'ailleurs, je suis allée voir les commentaires à la suite de son annonce. Il avait fait un statut Facebook dans lequel il expliquait qu'il allait devenir sénateur et ce n'était que des félicitations en dessous de la publication. Donc, les citoyens n'avaient pas l'air fâchés. Bon, les médias sociaux, c'est pas toujours scientifique. Mais oui, pour les conservateurs, en fait, c'est fâchant, mais en même temps, Carney, il a déjà sa majorité. Des fois aussi, de libérer une circonscription avec des députés qui ont moins le couteau entre les dents, mais ça donne une occasion de présenter quelqu'un puis d'avoir un peu du sang neuf. Le problème, c'est que le pouvoir d'attraction en ce moment pour le Parti conservateur d'aller chercher des gros noms n'est pas énorme. C'est pas garanti que le Parti conservateur va gagner cette circonscription-là. Le Bloc québécois a des très bonnes chances d'aller chercher cette circonscription-là. Puis pour Mark Carney, bien, ce serait vraiment pour lui préférable d'aller chercher encore quelques circonscriptions parce que là, sa majorité est tellement courte que s'il y a un député qui part aux toilettes, vous comprenez, il y a comme un risque de manquer les votes à la Chambre des communes. Et il y avait une rumeur que c'était André Laforêt qui allait se présenter dans Chicoutimi.
C'est vrai.
Il semblerait que le parti est en train de changer d'idée.
Oh oui!
Elle veut. Mais là, ils sont plus sûrs que les libéraux, ça leur tente.
OK. Puis on va c'est quoi, Mark Carney, mettons, il y a jusqu'à quand pour prendre une décision? On risque de le savoir quand?
Je me suis posé la question et je n'ai pas trouvé la réponse parce que ça dépend de la démission exacte.
Officielle.
Et pour, par exemple, Richard Martel, je ne sais pas si... En fait, sur le site de la Chambre des communes, ça dit qu'il n'est plus député. Donc, normalement, tu calcules un 6 mois.
Mais Boulris, il l'est encore.
Il l'est encore. Mm. Donc là, je ne sais pas comment il va faire sa gymnastique. Un autre scénario qui ne serait pas génial, c'est que les élections partielles soient déclenchées cet automne. Pendant l'élection québécoise ou tout de suite après, où est-ce que le monde est un peu fatigué. Puis tu sais, moi, je suis ça tous les jours, la politique. Là, puis des fois, je jase avec des gens que je me rends compte qui mélangent un petit peu qui est au provincial, au
absolument.
Fédéral.
Ben oui.
Il y a du monde pour qui ça serait bien trop. Là.
Ça fait trop, puis c'est fou. Parce qu'il faut vraiment prendre la démocratie pour acquise quand on est tanné d'avoir des élections, mais ça fait ça, malheureusement.
Ouais, on est
donc,
un peu
à suivre.
Là. Merci, Antonine. Je vais vous dire que sur Laurentienne-Sud, la bretelle pour la capitale, direction ouest en ce moment, voie droite qui est partiellement travée, accident, les policiers qui sont arrivés sur place, toujours pas de mise à jour, Max, concernant le bris d'aqueduc?
Non, ça semble être toujours d'actualité.
Donc, bris d'aqueduc à la hauteur de Saint-Sacrement, l'hôpital Saint-Sacrement, portion du chemin Sainte-Foy qui est fermé à la circulation entre l'avenue du Cardinal Bégin et l'avenue du Cardinal Rouleau, si vous pouvez éviter le secteur. On revient dans quelques instants, boulevard 102-1, 16h31.
Le retour.
16h38 à Boulevard 102 dans le retour de Boulevard. Jusqu'à 18h, on s'accompagne. Je m'appelle Audrey Pinchot, un plaisir d'être avec vous. Antonine Iaccarini qui est là également. Max Larouche, d'ailleurs, Max... L'Angleterre a compté?
Oui, on se dirige tranquillement, pas vite, vers une finale entre l'Espagne et l'Angleterre parce qu'à la 77e minute actuellement, c'est 1-0 Angleterre sur l'Argentine. Donc, quelques minutes à faire au match, mais...
C'est vrai que c'est super compliqué à remonter. Hier, on jasait un peu de ça, puis c'est Denis qui nous disait que ces gars... disait que c'était comme quand t'étais 2-0 au soccer, c'est comme si c'était 8-0 au hockey.
1-0, je veux dire, un but peut arriver vite, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu tires de l'arrière par deux buts au soccer...
Parce qu'il y a juste pas beaucoup de buts.
C'est ça. C'est
juste proportionnellement, chaque but, on dirait que c'est tellement du travail.
J'ai jamais vu un match de soccer se finir 6-5. Là. Souvent, c'est des 1-0, des 2-1. Même 2-1, là, c'est quasiment un festival offensif au soccer. Là.
Ça te prend du cardio en tabarnouche. Ben oui. Les terrains sont immenses pour vrai à traverser. Là.
Moi, mon fils a commencé à écouter plus le soccer avec cette Coupe du monde, puis il trouve que c'est là. Il dit « Pourquoi il court lentement comme ça? »
Mais je suis
comme
« Non, il
court
vite! »
C'est juste c'est qu'à comparer du hockey.
C'est ça, c'est pas la même game. Là, je veux dire, ils sont sur patins. Antonine, un sujet super intéressant que tu m'as partagé un peu plus tôt aujourd'hui concernant les accès aux plans d'eau. Ouais. On est-tu poche au Québec par rapport à ça? C'est des chercheurs, tu me disais, qui s'étaient penchés sur l'accès au lac à 90 km à vol d'oiseau, mettons, autour de Montréal.
Oui.
Et sur 596 lacs, c'est seulement 56 qui sont accessibles.
Oui, puis accessible, là, c'est au sens large, OK? Parce que est-ce qu'il y a un accès public? Mettons, vous et moi, on part, on se dit, ce serait le fun d'aller sur l'eau aujourd'hui.
Faire du paddleboard.
Oui, on amène nos paddleboards puis tout ça. Je vous parle pas d'accessibilité en transport collectif, puis que ce soit aménagé. Là. Juste, est-ce qu'il y a un terrain public sur lequel on peut passer? Ou ouais. Chacun des lacs est entouré de terrains privés? Il faudrait comme passer chez quelqu'un. Parce que, est-ce que vous saviez, vous, que c'est dans la loi, dans le Code civil, toute personne a le droit de circuler sur les cours d'eau et les lacs du Québec?
Non.
L'eau, c'est pas... Quand t'achètes un terrain sur le bord de l'eau, le terrain t'appartient, mais le cours d'eau t'appartient pas.
Oui, t'as
pas, t'as pas un bout de cours d'eau qui est à toi, c'est à tout le monde.
Mais le problème, c'est que tu peux... Faut que tu passes sur un terrain pour y accéder.
On peut pas sauter par-dessus, entre la rue puis le lac. Donc, bref... On ne profite pas vraiment de ce qui est, en théorie, quelque chose qui appartient à tout le monde. Il y a plein de groupes au fil des années qui ont dénoncé cette situation-là parce que effectivement, au Québec, puis dans le reste du Canada aussi, j'avais vu d'autres études plus larges, les cours d'eau ne sont pas très publics. Ils sont très occupés par des terrains privés. On ne sait pas trop dans notre culture, à nous, d'avoir des plages publiques. Il y en a quelques-unes. Mais avec tous les lacs et les rivières qu'on a au Québec... On devrait avoir, en théorie, accès plus facilement. Ça peut varier d'une municipalité à l'autre.
C'est un texto qui nous dit que c'est seulement 2% qui sont accessibles au public.
Oui, oui, c'est des chiffres un peu ridicules. Seul, sur les 48 km de rive, sur les plans d'eau habités, donc là, on parle pas, là, on s'en va là, à Bay James, dans le pit. Là. Je vous parle là, autour de Montréal, des villes, etc. C'est 2% qui sont accessibles, effectivement.
C'est fou.
Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Puis dans un contexte où avoir accès à de la propriété est encore plus difficile qu'avant...
Imagine-toi avoir accès à une propriété qui a accès à l'eau. Hein?
Fait que ça devient... En fait, ce droit-là de circuler sur les eaux québécoises, ben ça n'existe pas. Et surtout, ben c'est sûr qu'il y a une inéquité sociale dans ça. Parce que si t'es plus riche, t'as plus de chances d'avoir accès à la propriété, à un terrain sur le bord de l'eau, un chalet sur le bord de l'eau. D'ailleurs, c'est ça aussi qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de ces cours d'eau-là, que c'est des chalets, des résidences secondaires. C'est même pas des gens qui sont là en tout temps. Mais même si les gens sont pas là, on peut pas nécessairement passer. C'est pas comme ça dans tous les pays. Si on va dans plusieurs pays d'Europe, vous allez avoir beaucoup plus d'accès public.
Tu me racontais pas, toi, justement, que dans un chalet que tu avais déjà eu, il y a du monde qui passait.
Ben
puis,
oui, parce que j'avais un chalet sur le bord du fleuve. Puis il y a aucun accès pour se rendre au fleuve public sur plusieurs kilomètres. Puis il y avait des touristes français, des fois, qui venaient s'asseoir comme dans ma cour sur le bord du fleuve parce que...
Pour eux, c'était normal.
Oui, puis moi, j'étais à côté d'un terrain commercial. Donc, évidemment, ça pouvait aussi donner un petit peu plus l'envie aux gens d'aller sur le terrain. Mais il y a la Fédération des chasseurs-pêcheurs qui a sonné l'alarme aussi il y a quelques mois là-dessus parce que ça fait partie aussi de l'aménagement du territoire, de l'accès pour les pêcheurs. Vous savez, vous avez le droit, par exemple, de pêcher dans le fleuve Saint-Laurent. C'est un droit que vous avez. Je pense qu'on n'a même pas besoin de permis pour pêcher dans le fleuve. Puis vous pouvez acheter un permis chez, dans les magasins de chasse et pêche un peu partout pour avoir des permis de pêche généraux dans plein de cours d'eau du Québec. Mais si vous n'êtes pas capable de vous rendre avec votre chaloupe sur le cours d'eau, encore une fois,
ça marche pas.
Ça sert à rien. Donc, c'est quoi les solutions qu'on peut avoir maintenant pour ça?
Est-ce qu'on va pas racheter des terrains pour détruire les chalets puis juste donner un accès?
Ah, moi, je te rentre là-dedans avec un tank. Là, ça suffit. Mais on veut
Québec,
des plages publiques.
Là, à Québec, ouais. C'est quoi les données? Parce que, tu sais, vite comme ça, mon premier réflexe, c'est de me dire on est chanceux, on a la baie de Beauport, mettons. On a quelques accès.
On n'est pas si extraordinaire que ça. Par contre, on a quelques bons exemples. Je peux pas te donner sous forme de données, mais je peux te faire quand même une liste d'accès à l'eau à Québec qui sont assez faciles. Par exemple, tu disais la baie de Beauport. À Cap-Rouge, vous pouvez aller sur le bord du fleuve très, très facilement, vous installer, c'est public, il y a une plage publique, même s'il y a des maisons. Mais surtout, moi, c'est vraiment la promenade Champlain que je trouve qui est un joyau.
Oui.
Et on s'en rend pas compte. Moi, quand j'étais jeune, le boulevard Champlain, c'était des tanks à huile, à gaz qui appartenaient là, à des pétrolières.
C'était pas chic, là.
C'était pas beau, c'était des terrains privés. Il y a une grande partie du bord du fleuve qui appartient au port de Québec, mais il y a une grande partie des rives qui ont fait l'objet d'une vision puis d'un grand projet, puis c'est la promenade Champlain. On peut en profiter. Vous pouvez aller pêcher, vous pouvez aller vous baigner, il y a une plage maintenant. Et c'est ce genre de projet-là qui peut faire la différence, mais c'est coûteux pour une municipalité. Il faut dire, la promenade de Champlain, c'est... disons, de juridiction provinciale, là, parce que c'est la commission de la Capitale-Nationale qui avait pris ça en main. Si on laisse tout ça dans la cour des municipalités, mais les villes, ils ont déjà de la difficulté à arriver dans leur budget. Mmh. S'ils montent les taxes, ben ils se font battre aux prochaines élections, puis c'est fini. Il y a un autre candidat qui arrive et dit « moi, j'ai baissé les taxes ».
On est pris un peu.
Donc, leur seul moyen d'avoir de l'argent, c'est d'avoir des nouveaux payeurs de taxes. Sinon, c'est de monter les taxes. Donc, plus tu développes des terrains, puis tu as des gens qui habitent là, puis des propriétaires qui payent des taxes foncières, plus c'est avantageux. Faire une plage publique pour une municipalité... c'est pas payant.
Ça vaut pas la peine.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, c'est des projets plus structurants en collaboration avec le gouvernement du Québec. Il faut qu'il y ait comme plusieurs personnes qui embarquent, plusieurs paliers de gouvernement qui embarquent là-dedans. La deuxième des choses, c'est quand on fait des nouveaux projets. Par exemple, tu as un promoteur qui veut faire des duplex sur le bord de telle rivière. Bien, pourquoi pas exiger que municipalité parfaite, mais ça prend un accès public vers le cours d'eau. Donc, il y a une partie de ton terrain
une bonne idée.
Qui serait un chemin public. Puis
ça ne dérange pas quand c'est des tours. C'est pas comme quand c'est une maison privée, mettons, puis que tu as tout le temps du monde en arrière de chez vous. Là.
Mais en même temps, c'est ça. C'est que l'eau est publique. Donc, si tu t'installes à côté de l'eau, moi, en théorie, je peux me parquer avec ma chaloupe devant chez vous. Il n'y a pas d'enjeu. C'est juste que je n'ai pas l'air de passer sur ton terrain.
Non, c'est ça.
Donc, autant faire des chemins qui sont bien organisés. Puis ça passe par des plans d'aménagement.
L'Argentine qui crée l'égalité à la 85e minute en toute fin de match. C'est 1-1.
Hey, mon Dieu, ils sont contents. Hein? Wow! C'est beau. Ça, c'est le côté qui est vraiment beau du sport.
Tant qu'à vous couper, je vais vous couper deux fois. Le complément d'information pour tantôt, on a reçu des textos, puis Marceau m'a écrit aussi, pour ce qui est de pêcher, il y a comme une nuance intéressante.
Okay.
Permis de pêche obligatoire à partir du pont de Québec vers l'ouest, non obligatoire du pont de Québec jusqu'à Gaspésie, mettons, dans le fleuve.
Ah, fait que l'autre bord du pont, on peut pas.
T'as comme une coupure au pont de Québec.
C'est drôle, ça. À Québec, c'est 21 lacs sur 183 qui sont atteignables.
C'est pas extraordinaire non plus, mais... c'est ça. Tant que ça va dans la cour des municipalités, les municipalités n'auront pas le choix de miser sur des payeurs de taxes, pas sur des accès publics qui ne leur donnent pas une scène. Donc, il faut vraiment faire preuve de vision plutôt que d'y aller à la pièce, là, j'ai l'impression.
Je trouve ça super intéressant. Puis vos textos entrent, j'ai l'impression que ça désole une couple de monde aussi. Il y a des gens qui nous parlent de secteurs qui sont contaminés. Il y a des affaires qu'on ne sait pas aussi, il faut le dire. Là. Mais c'est vrai que c'est ridicule de penser qu'on a tellement des beaux plans d'eau, on a tellement en frais de quantité, mais on n'y a pas accès. Salutations à ceux qui ont la chance, pour vrai, d'avoir des chalets. Ben oui, on vous salue. Mais il y a des gens qui sont ce matin, ça, il faut le dire.
Oui.
Il y a des gens qui sont, mettons, dans des secteurs depuis longtemps, puis que quand tu vas les voir, il n'y a pas de problème pour
exact.
Que tu ailles, mettons, avec ton petit paddleboard pour la journée. Là.
Non, puis, tu sais, moi qui commence tranquillement à entrer dans le monde de la chasse, vous savez, on peut chasser sur des terrains privés quand on demande la permission à des propriétaires qui ont des grandes terres dans certains endroits. Puis c'est vraiment... Je découvre un monde où les gens se parlent puis collaborent. J'ose croire que ça doit un peu se faire aussi pour la pêche. C'est-à-dire, oui. Est-ce que ça vous dérange si je passe sur votre terrain pour me rendre, pour aller pêcher sur le lac? Mais c'est quand même un peu drôle qu'on soit obligé de supplier les gens alors que les plans d'eau sont censés nous appartenir à tous.
En même temps, d'un autre côté, j'arrive à comprendre que tu viens de t'acheter un chalet, tu le payes en tabarnouche dans l'univers dans lequel on vit en ce moment.
C'était pas ça le deal, là.
T'as comme envie d'être seul, d'avoir la paix. T'sais, c'est particulier. Merci, Anto. Peut-être vous dire que ce Robert Bourassa Nord, à la hauteur de Charest, l'accès depuis Versant Nord est partiellement entravé. Voie de droite bloquée, c'est un accident. Services d'urgence qui sont sur place. Toujours pas de mise à jour quand on parle du fameux bris d'aqueduc, là, donc à la hauteur de l'hôpital du Saint-Sacrement. Portion du chemin Sainte-Foy fermée à la circulation entre l'avenue Cardinal Bégin et l'avenue Cardinal Rouleau. Autre chose, 88-971-102 texto.
Le retour de Boulevard.
À Boulevard 102, on essaie de rêver un peu quand on peut. C'est l'été, certains voyages, certains prévoient des voyages prochainement. Et il y a des destinations qui sont plus populaires que d'autres. Je sais que le Portugal a eu la grosse cote dernièrement. Bon, on va se couper, il y a un autre but.
2-1 Argentine.
Servir les bords, là, solidement.
Et là, on est dans le temps supplémentaire, donc la 5e minute de temps supplémentaire qui s'amorce. Fait qu'il reste un genre de 4 minutes.
OK,
à ce
ça marche
match-là.
Pas comme. OK, fait que ça s'arrête pas, là.
Parce que là, c'est pas la prolongation encore. C'est le temps supplémentaire.
Donc, ben, là,
qui est le temps quand il y a, mettons, quand il y a des blessés là, aux 3 secondes qui tombent à terre, puis tout. Puis là, il y a des arrêts de jeu. Puis il ajoute du temps.
Il ajoute du temps pour venir compenser avec ce qu'on a perdu.
Parce qu'il n'arrête pas le temps. Mais mettons que ta question, c'était pour la prolongation. Oui. Non, ça ne s'arrête pas non plus au premier but, nécessairement.
Mais là, s'ils si ont marqué un but pendant le temps supplémentaire, pas en prolongation, est-ce qu'il va y avoir une prolongation
non.
quand même?
Là, l'Argentine gagne le match, ça reste comme ça, sans prolongation.
Mais mettons qu'il compte un autre but, on a une prolongation. Mettons qu'il s'égalise encore dans la prolongation, il y a une autre prolongation?
Oui.
Ça
peut être long, en effet. Ça, la prolongation, c'est une demi-heure. Là.
Mon Dieu,
c'est 15 minutes chaque bord.
Okay,
mais
bon,
là, à date, là, il reste 3 minutes, puis il n'y en aurait pas de prolongation parce que l'Argentine mène 2-1 sur les Anglais. Et donc, on aurait une finale Espagne-Argentine.
Ils doivent être soulagés parce que ça n'a pas commencé de même au départ. Hein?
Pas en tout. C'est tout un revirement de situation.
Tellement excitant. On suit ça pour vous. Vous êtes à Boulevard 102.1. Je vous parlais de voyage. Je vous parlais d'à quel point, dans les dernières années, par exemple, le Portugal avait donc eu la cote, entre autres, parce que c'est pas très cher. L'Italie, ces temps-ci, moi, j'entends tout le monde qui s'en va en Italie. Mais il y a des destinations, par exemple, qui font vibrer les Québécois. Il y a des tendances mondiales en frais de voyage aussi. Daniel, le fou de voyage, on lui a parlé la semaine passée. Et il est de retour en onde avec nous. Comment vas-tu?
Ça va bien, merci. Oui, il y a des tendances voyage. On remarque toujours là, les tout-inclus qui sont pour les Québécois, les Caraïbes, toujours aussi tout le temps là, populaires. Sinon, mais tu sais, là, on a besoin de changement un peu parce que les tout-inclus, avant, on allait beaucoup à Cuba.
Oui, c'est ça. Il me semble que ça a changé pas mal. Il n'y a plus grand monde qui a le goût d'aller là, là.
Non, ben c'est ça, mais on ne va plus à Cuba. Là. En ce moment, c'est difficile. Même les tout-inclus, plus ça va, plus c'est tout en train de fermer, s'effondrer, tout ça.
C'est triste.
Donc, on change tout ça et les tendances sont beaucoup pour les croisières, entre autres.
Oh, ouais.
Oui, les gens adorent les croisières dans les Caraïbes pour découvrir des nouvelles destinations. Puis ce qui est bien avec les croisières, c'est qu'en fait, tu défais ta valise juste une fois. Donc, tu découvres plusieurs destinations, plusieurs îles, mais tu n'as pas à repacter tes affaires.
Voyager à chaque fois ton stock. Puis, c'est-tu quand même accessible? Parce que une affaire avec les tout-inclus, quand on va aller dans le sud en ce moment, là, parce que j'ai regardé pour le fun. J'avais 2 semaines de vacances début juin, puis je me suis dit, hey, je pars-tu tout seul? 4-5 jours. Il y a eu un petit moment où c'était bien populaire de partir comme week-end. Là. Mm-hmm. Puis je me suis dit, je m'essaye-tu? Puis c'est comme entre 2005 et 3000 piastres, mettons que tu veux quelque chose qui fait du sens. Puis j'ai vraiment fait le saut, parce que il me semble que quand j'étais plus jeune, tu pouvais partir sur un trip, mettons, qui est mis pendant la semaine de relâche pour 800$, puis t'étais bien, là.
Oui, bien, c'est ça. Là, ça dépend de la destination. Là. Si on parle, mettons, des croisières aussi, plus ça va, plus c'est cher, parce que plus les bateaux, ils sont révolutionnaires. Là, il y a des parcs aquatiques énormes sur chaque
sur
bateau.
Le bateau.
Oui. Et si on parle de la Icon Class, mettons, avec Royal Caribbean, le Star of the Sea, le Icon of the Sea, c'est des bateaux où ils ont des énormes parcs aquatiques. C'est fou, là. Donc,
c'est vraiment capoté.
Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que là, à ce moment-là, c'est plus cher. Par contre, mettons, en niveau croisière, il y a des bateaux qui sont un peu plus simples encore, que là, c'est un peu plus abordable.
Parce que mettons que moi, je veux une chambre, une piscine puis de la bonne bouffe, là, j'imagine que je peux m'en sortir avec un prix correct?
Un prix correct, oui. Absolument. Mais pour une personne seule, c'est toujours plus compliqué en croisière qu'en occupation double.
OK.
Souvent, c'est, ben, je pense que même dans les tout-inclus, souvent, c'est un peu plus dispendieux.
Ben
dépendamment,
oui.
C'est ça.
Me demandais pourquoi.
La vie est pas faite pour les gens seuls.
Ben oui, c'est ça. Sinon, mais pas chaud.
Non, parce que justement, tu sais, quand t'es deux, c'est comme si tu divisais un peu le prix de la chambre.
Mm. Fait que, OK.
Ouais, c'est ça.
Fait que c'est moins avantageux, mettons, pour ceux qui te reçoivent. Non, mais je comprends. C'est,